9h16 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute du 9. Et puis maintenant, ben, c'est le temps d'accueillir en studio les premiers et étudiantes du cours de communication orale qui veulent nous parler d'intelligence artificielle. Artificielle. Donc, le sujet de l'heure, je crois. Donc, on commence tout de suite avec Jade Frochis qui. Bonjour Jade, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vais vous parler, grosse surprise, de l'intelligence artificielle dans nos vies, mais plus précisément, dans le contenu qu'on consomme quotidiennement pour se divertir. En effet, la journée sur les disruptions numériques qui a été organisée par l'UDS m'a amenée à me questionner sur la présence de l'intelligence artificielle dans le monde littéraire, mais plus précisément dans les romans de fiction. Étant une grande amatrice du BookTok, le mouvement qui a littéralement redonné le goût de lire à toute une génération sur TikTok, je consomme beaucoup de contenu lecture sur l'application et j'ai vu passer, à de nombreuses reprises, des gens qui dénonçaient l'utilisation de l'IA dans la création et la rédaction des romans, ainsi que dans la création d'illustrations, entre autres pour les couvertures. Et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que oui, on le sait, les ChatGPT de ce monde sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Peuvent nous aider à trouver des idées, à formuler plus clairement nos pensées, à organiser nos textes. Bref, ils sont une sorte de partenaire de création. Mais jusqu'où peut-on aller avec ça, surtout dans un monde aussi créatif que celui de la littérature? Écrire, c'est quand même un acte qui est profondément humain. C'est de transmettre une émotion, une vision du monde, de la sensibilité. Quand on lit un roman, on entre dans la tête et dans le cœur des personnages. On découvre une nouvelle vie et on consomme, d'une certaine façon, la création artistique qu'un ou qu'une auteure voulait nous partager. Alors, que se passe-t-il lorsque la vision d'un auteur est en réalité le reflet de celle d'une intelligence artificielle? Certaines personnes diront que c'est pas très grave, que si le texte est bon et qu'on s'en rend pas compte, ça change rien à l'appréciation de l'œuvre. D'autres, au contraire, voient ça comme une forme de trahison, une sorte de tromperie artistique, parce qu'au fond, on s'attache aussi à la personne derrière les mots, à son vécu, à sa voix. Vous vous en doutez peut-être, mais je suis plutôt du deuxième avis. Et il y a aussi toute la question de la transparence. Est-ce qu'on devrait mentionner sur la couverture d'un livre que l'intelligence artificielle a participé à l'écriture, comme on mentionne un traducteur ou un illustrateur? Pour l'instant, il n'y a rien qui l'exige. Alors peut-être qu'on lit déjà des œuvres récentes coécrites avec une IA, sans même le savoir, et ça, je trouve ça particulièrement inquiétant. Personnellement, je pense que l'IA peut être un outil qui est très utile, à condition qu'on garde la main sur notre créativité, qu'on reste conscient de son rôle et qu'on ne perde pas qu'est-ce qui fait la beauté d'un roman. La beauté d'un roman. Ça part d'humanité. Parce qu'au fond, une bonne histoire, c'est peut-être pas une suite de mots bien assemblés, c'est quelque chose qui nous transporte, qui nous bouleverse, qui nous fait vivre des émotions. Et pour l'instant, du moins, je pense pas qu'une machine puisse vraiment faire ça. Mais il faudra rester attentif parce que cette frontière entre l'humain et l'IA, elle devient de plus en plus mince. Et vous, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Merci!
Effectivement, dans le milieu créatif, ce sera très... ça va être des enjeux très importants, mais pas seulement dans le milieu créatif, parce que le milieu du sport également peut être affecté par l'intelligence artificielle. Puis pour en parler, on reçoit Lauriane Gosselin. Salut, Lauriane.
Bonjour, merci de me recevoir. Donc, en fait, comme Jeanne l'a mentionné, plus le temps avance, plus l'intelligence artificielle devient partout. Dans nos vies personnelles, au travail, à l'école. Puis maintenant, c'est même rendu sur les pistes de ski. Oui, les pistes de ski, vous avez bien entendu. La technologie s'invite maintenant jusque dans la fabrication de la neige. Au Québec, comme vous le savez peut-être, le ski, c'est du sérieux. Dans notre province, on compte environ 75 stations qui sont membres de l'Association des stations de ski du Québec. Et en 2021, elles ont ensemble généré près de 866 millions de dollars en retombées économiques. C'est beaucoup d'argent, là, quand on y pense, pour chausser des palettes puis glisser en bas d'une montagne. Par contre, même si le ski représente un point plutôt central de l'attraction touristique hivernale du Québec, s'il y a bien une chose qui coûte cher, c'est la production de neige. Pour vous donner une idée, là, autant en studio qu'à la maison, le directeur général de la station de ski du Mont Offord, Simon Blouin, a confié à Radio-Canada en 2024 que juste de brancher les équipements de fabrication de neige, on parle de 3 000 $ par jour en électricité. Évidemment, dans ce prix-là, on ne compte pas la main-d'œuvre, les frais d'entretien puis toutes les autres dépenses qui sont reliées à ça. Donc, on comprend que fabriquer de la neige, ça coûte cher, mais pas juste au portefeuille. Ça coûte cher aussi à l'environnement. En fait, la production demande une énorme quantité d'eau, Puis comme l'eau doit être pompée, refroidie et projetée sous pression, ça demande aussi une grande quantité d'énergie électrique. Donc, résultat, quand les canons à neige sont en marche, ils produisent des émissions de gaz à effet de serre. Puis ça, ben ça aide pas à notre problème de changement climatique. Pour vous résumer tout ça, là, on est comme dans un cercle vicieux qui finit jamais parce que nos hivers se raccourcissent et on a moins de précipitations de neige en raison des changements climatiques. Donc, on produit de la neige pour offrir des conditions optimales aux skieurs. Mais ça, ça coûte cher en énergie puis ça endommage l'environnement. Donc, ça empire la situation des changements climatiques. Donc, rendu là, qu'est-ce qu'on fait, vous me demanderiez? Ben, en fait, c'est là qu'entre en jeu l'intelligence artificielle que je vous ai parlé plus tôt. En France, plus précisément à Toulouse, il existe une jeune entreprise nommée Elda Technologies qui utilise des drones, des algorithmes d'intelligence artificielle et un paquet d'autres technologies pour estimer et optimiser les quantités de neige à produire pour les domaines de ski. Leur technologie permet de déterminer l'épaisseur de neige sur les pistes, puis d'évaluer les conditions météorologiques à venir pour estimer la quantité de neige qui est à produire. En plus de ça, ils évaluent aussi la performance énergétique de la station pour éviter le gaspillage d'énergie et ensuite diminuer son impact environnemental en aidant à gérer efficacement les ressources qui sont utilisées. Selon mes recherches, l'entreprise est encore en phase d'implantation de sa technologie dans les stations de ski de nos amis les Français, mais ça reste une solution qui est quand même très prometteuse pour l'avenir du ski. Peut-être qu'un jour, le Québec utilisera cette technologie ou même qu'une entreprise d'ici pourra concevoir un outil similaire. Ça serait quand même le meilleur des mondes, là, de pouvoir profiter de nos hivers québécois tout en encourageant une compagnie d'ici.
Oui, ce sera très intéressant à suivre ce dossier-là. Merci beaucoup, Lauriane. De ton côté, Anne-Marie Pelletier, mon Dieu, c'est très officiel. Tu nous parles également d'intelligence artificielle. Dans quel domaine, cette fois?
Je reviens un peu sur la création artistique. En fait, ce que j'ai dénommé l'IAR, donc des œuvres artistiques générées par l'IA, puis en quoi elles comportent ou non une menace pour le monde artistique. Parce qu'en fait, si l'intelligence artificielle avait su répliquer les mêmes coups de pinceau que Van Gogh, est-ce qu'aujourd'hui, je vous le demande, la nuit étoilée vaudrait des millions de dollars? Moi, c'est ma grande question depuis que le perfectionnement continu de l'IA menace plusieurs carrières, dont celle d'artiste. Parce que maintenant, on a plusieurs logiciels qui génèrent des créations artistiques et il faut absolument revisiter notre vision de la valeur du processus créatif. Mais dans le fond, comment s'y prend l'IA? C'est simplement en agençant des images ou des vidéos préexistantes qu'elle réussit à créer une œuvre inédite. Et ça, c'est toujours selon la consigne qui lui est fournie. Et je veux insister sur ce point-là parce que, dans le fond, c'est bien la seule contrainte qui pousse l'IA à créer, la requête humaine. Si la volonté de l'utilisateur devient le seul moteur qui permet à la machine d'obtenir un résultat artistique, alors, à mon avis, l'IA répond autant au nom d'outil que le fait un pinceau qui est tenu par le bon artiste. D'ailleurs, comme le mentionne un pionnier de l'utilisation de l'IA dans la création artistique, M. Hugo Cazel-Dupré, aujourd'hui, l'art n'est pas défini par la technique, mais bien par la volonté d'une personne d'exprimer un message et de rencontrer son public. Donc, au-delà de l'intention, j'en comprends qu'une œuvre artistique s'accompagne surtout d'un sentiment. Imaginez que je vous demande de peinturer une toile maintenant. Vous créez un classique paysage, montagne et ciel bleu. Peut-être que votre idée part simplement d'une nature paisible que vous trouvez belle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que votre imagination s'est bel et bien nourrie d'une impression, d'une émotion qui va servir de pilier à votre création. On est conditionné à laisser nos expériences passées, nos humeurs, même nos préférences à nous influencer. Et ça, on sait de sources sûres que l'IA ne peut pas le faire. Je pense aussi que la valeur des œuvres produites par la machine se mesure avant bien des choses par la vision qu'en a son public. Ce que je demande ici, c'est est-ce qu'on valorise autant en tant que société un produit généré par un robot que l'un qui est créé par l'humain? Évidemment que non, puis on peut l'observer dans bien des scénarios. Par exemple, un sac à main Gucci confectionné par un designer va être tarifié bien plus sévèrement qu'une sacoche en faux cuir manufacturée en Chine. Mais ce qui les différencie fondamentalement, c'est leur unicité. Une caractéristique qui est aussi commune aux œuvres artistiques. L'IA va produire en masse alors que l'artiste crée quelques spécimens d'exception. L'IA peut effectuer des erreurs vu qu'elle répond à la demande d'un individu, mais l'artiste ne répond qu'à lui-même. Bref, l'intelligence artificielle est loin de détrôner les milliers d'œuvres produites par nos plus grands génies artistiques. Finalement, la nuit étoilée est seulement aussi valorisée parce que ses coups de pinceau dépeignent avant tout la singularité de son artiste.
Mm-hmm. Très intéressant, ça aussi. Là, ça va être très sujet à débat, évidemment, dans le domaine des arts visuels également, les reproductions et tout ça. Mais merci beaucoup, Anne-Marie. Et on va rejoindre Béatrice Donne. Salut, Béatrice.
Oui, allô, merci de me recevoir.
Merci. De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Je vais me pencher sur le recrutement de mon côté. Donc, ça part d'un article que j'ai vu sur LinkedIn qui disait que l'intelligence artificielle allait bientôt remplacer les recruteurs. Puis là, ben j'ai ri. Un vrai bon rire du genre, si seulement elle savait dans quoi elle s'embarquait. Parce que si c'est vrai, là, j'espère qu'elle est prête à gérer les candidats qui ne se présentent pas à leur entrevue, sans prévenir, sans texto, rien, nada. Depuis que je travaille en recrutement, là, j'ai vite compris que trouver le bon candidat, c'est un peu comme trouver l'amour, dans le fond. Tu veux que ça clique, que la personne soit fiable, puis surtout, ben qu'elle ne te gosse pas après le premier match Tinder. Puis là, ben on nous dit que l'IA va révolutionner tout ça. Super! Mais entre nous, là, avant qu'elle révolutionne quoi que ce soit, il faudrait déjà qu'elle comprenne comment fonctionne un humain, avec ses humeurs, ses hésitations, ses « je te reviens là-dessus », sans jamais vraiment te revenir là-dessus, tu sais. C'est vrai, l'intelligence artificielle fait déjà beaucoup de choses, comme analyser des CV, détecter des mots-clés, suggérer les meilleurs profils pour la job. Il y a même des entreprises qui l'utilisent pour évaluer le ton de la voix ou la posture d'une personne pendant une entrevue vidéo. Mais tu sais, à force de tout calculer ça, là, est-ce qu'on risque pas d'oublier l'humain derrière les données? Mettons, on s'imagine le recrutement dans 20 ans. Tu veux postuler? Pas besoin de CV. L'IA va venir scanner ton historique Spotify pour savoir si t'es du genre à écouter du Taylor Swift pendant que tu travailles ou à hurler du AC/DC en assemblant un meuble IKEA. Après ça, elle analyse ta gestuelle à travers la caméra. Ton regard, ton ton de voix, ta coupe de cheveux, même tes micro-expressions. Tout y passe. Si tu regardes ailleurs, elle pense que t'es distrait, que t'es pas intéressé. Si tu hoches trop de la tête, elle pense que tu fais une réaction allergique. Puis si tu clignes trop souvent des yeux, elle se dit que t'as sûrement quelque chose à cacher, genre un casier judiciaire. Rien de moins. Résultat, t'es éliminé parce que t'as eu le malheur d'avoir un tic nerveux pendant la fameuse question « Parle-moi de toi ». Mais bon, c'est sûr que c'est impressionnant tout ça, là. Je me dis une chose par contre, si l'IA avait un peu plus de jugement humain, elle comprendrait que le meilleur candidat, c'est pas celui qui a 100% de mots-clés dans son CV. Non, c'est celui qui a 100% de motivation dans les yeux. Parce qu'au fond, peu importe la technologie, là, recruter, ça reste une affaire de rencontre humaine et il n'y a aucun algorithme qui peut encore prédire le feeling qu'on a quand quelqu'un, en nous regardant profondément dans les yeux, nous dit « j'adorerais travailler ici ». Alors oui, l'IA peut certainement m'aider à trier les CV, puis je dirais pas non, là. Mais pour le reste, je garde encore le plaisir de faire confiance à mon instinct, puis surtout à mon café.
Bien, merci beaucoup. Effectivement, ça fait très peur, tout ça, pour des futurs entretiens d'embauche. On va se souhaiter que ça ne nous arrive pas, hein, de se faire juger par une IA. Merci beaucoup, vraiment, à Jade, Lauriane, Anne-Marie et Béatrice d'avoir pris le temps de nous parler, de nous faire ces courtes chroniques. Merci beaucoup. De notre côté, on s'en va en musique et on revient dans quelques instants pour notre entrevue avec Berlam.